Bonjour à tous, enchanté et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison radiophonique, le magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur le net www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec Christophe Tillman. Christophe, bonjour.
Bonjour Lamiche, bonjour à tous. Bonne rentrée.
Oui, effectivement, les vacances, c'était bien.
Écoute, oui, peu de moto, un peu de vélo et puis beaucoup de découvertes. Ça ne s'est pas toujours passé comme on voulait, mais ça a été sympa quand même.
Très bien. Tu nous proposes de revenir sur quelques articles du Moto Magazine de septembre.
Oui, parce que c'est la rentrée. On a vu à Lille les modifications de voirie. On a vu fleurir des ronds avec 30 à l'intérieur. Donc l'abaissement de la vitesse dans la plupart des rues de Lille, excepté les boulevards. Ça fait suite d'ailleurs aux 70 km/h sur le périphérique. Et ça tombe bien, au mois de septembre, il y avait un article intitulé « Périph' du futur, cercle vertueux ou cercle vicieux ?» Parce que je reviens là, et donc sur cette conférence qu'a donnée la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le futur du périphérique parisien, mais certainement aussi la voie ouverte vers le futur de nos périphériques dans les grandes agglos. Hein, on voit de toute façon que tout ce qui se fait à Lille, c'est pratiqué à Paris. L'abaissement des vitesses, les zones à circulation différenciée, bientôt les zones à faible émission. Donc, mais toutes les agglos sont concernées.
Alors pourquoi faire des véhicules qui roulent à 200 à l'heure alors que c'est pratiquement les zones 30, on commence à en voir un peu partout. Et à la limite, on se fait doubler par des vélos, comme on en parlait juste avant.
Tout à fait. Effectivement, ça m'arrive de passer à des vitesses prohibées en vélo dans la ville. Bon. Donc maintenant, je vais faire attention. J'ai un copain qui s'est déjà fait arrêter.
Voilà, très bien. Alors, si on met des PV au vélo maintenant, je ne sais pas dans quelle société on va vivre.
Où va-t-on ?
Voilà. Le radar Méduse. Alors ça, j'ai vu ça dans Moto Magazine, un nouveau radar, mais qui capte le son.
Oui, alors effectivement, on passera en revue un petit peu l'actu des radars déjà dans la région. Mais effectivement, ce radar Méduse, donc il y a quatre équipements qui sont aujourd'hui installés en Île-de-France. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne, à quoi ça sert et vers quoi ça ouvre.
Très bien, donc il faudra faire attention à son échappement.
Absolument.
Voilà. Voilà. Donc en plus, l'entretien des routes, alors ça c'est dans le Motomag, il y a 6 photos qui datent de la première de 2010.
Oui, alors c'est une rubrique que je développe peu parce que souvent ça concerne des contrées un petit peu loin de chez nous. Mais là c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un motard qui a expliqué l'accident qu'il avait eu. Et il a monté les recherches un peu plus loin et je vous expliquerai comment il a mis en évidence que ça faisait quand même presque 10 ans que trou, il était toujours là.
Ce trou se situe dans une courbe.
Oui, bien sûr.
Et il a perdu le contrôle de sa moto.
Alors, il y a une photo de la jante, effectivement, déformée. Donc, je crois que ça a dû entraîner sa chute sans gravité. Mais malgré tout, il était à terre. Mais c'est surtout la caractéristique de la voirie qui n'a pas changé en 10 ans.
Et en 2019, le trou existe encore.
Voilà.
Voilà, écoutez, ouais, et c'est tout dit. Voilà, et on va finir avec un comparatif trail, des motards qui ont essayé quelques motos donc, dans un super pays qui est la Grèce.
Voilà, alors à Kikinkou, il y a quelques adhérents qui aiment bien la Grèce. Je n'ai pas dénombré, mais il y en a quelques-uns qui ont pris la route de la Grèce. Alors là, c'est quand même une région moins fréquentée, on va dire. Les contours de la Grèce au niveau de la Macédoine et de l'Albanie, avec évidemment des chemins et des routes à trail. Et ça tombe bien, la Ténéré, tant attendue, est sortie et elle est dans le comparatif de Moto Magazine de septembre face à ses concurrentes. Donc je vous en donnerai, sans tout dévoiler, quelques éléments.
On a vu que cette nouvelle 700 Ténéré, il ne faut surtout pas s'asseoir dessus, parce que la selle est limitée à presque rien. Hein. C'est un centimètre de mousse.
Ça tombe bien, parce que sans spoiler l'émission, je pense qu'on va parler des cutanés après.
Alors, autre sujet, Christophe, je propose de revenir sur la deuxième édition des cutanés qui s'est déroulée au fort de Seclin le 15 septembre. Les cutanés, c'est des rassemblements de véhicules motorisés d'avant 1945 et organisés par la confrérie des Vieux Clous. Nous y étions et on en a profité pour faire quelques enregistrements. Je te propose de passer un morceau de musique et de se retrouver après. Voilà, retour avec Christophe Tillemans. On reparle de ce périphérique du futur, le futur périphérique parisien.
Alors, oui. En fait, Moto Magazine a été invité et revient sur cette conférence de presse qui a été donc organisée le 28 mai dernier par la mission donc à Anne Hidalgo, qui revient donc sur un rapport de la mission d'information et d'évaluation du Conseil de Paris sur l'avenir du périphérique. Alors, il faut refaire un peu l'histoire. Le périphérique, c'est pas si vieux que ça. 1973, c'est l'ère du tout auto. Et pour Paris, finalement, de cet anneau routier, une autoroute urbaine de 35 km, qui est aujourd'hui l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe. 1,2 million véhicules qui l'empruntent chaque jour. Alors, évidemment, la donne aujourd'hui environnementale a changé, la pollution des villes est là, et nos élus, nos politiques cherchent les solutions, ils les trouvent et les mettent en pratique. Et donc, clairement, dans ce rapport, c'est un état des lieux. Et puis, des préconisations. Donc, on va passer un peu en revue la façon dont ça a été abordé. Alors déjà, petit rappel, cette conférence de presse, ça a eu lieu dans un endroit symbolique. Bon, moi, je ne sais pas si toi, la Miche, tu vas souvent sur Paris, mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir, en l'occurrence, le site dont il est question, mais le recouvrement du périphérique qui a été réalisé Porte des Lilas.
Ben, j'ose plus y aller à Paris parce qu'il y a tellement de vignettes, que je ne sais plus comment ça fonctionne.
Voilà. Alors, Paris a... Parce qu'on a pensé que finalement, la pollution, on allait la contenir en recouvrant le périphérique. Bon. Sauf que on a lancé cette première opération, 17 500 m² d'esplanade sur le périphérique parisien au niveau de la Porte des Lilas. Et dans les cartons, si ça avait été honoré, on continuait le plan de couverture à Vanves et Porte de Champéret. Et puis en 2008, ces travaux donc sont achevés. C'était un plan qui avait été initié de 2000 à 2006. En 2008, travaux terminés, coût 140 millions d'euros. Et là, gros coup de frein, on arrête les frais. Il n'y a que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était alors candidate en 2014 aux élections municipales, qui, elle, s'est accrochée à la couverture du périph' et qui avait prévu sur un plan sur 50 ans 10,4 milliards d'euros de travaux pour couvrir le périphérique. Bon, elle était bien la seule, et Anne Hidalgo en a bien profité pour la tacler sur ce sujet-là. Alors, quels sont les constats aujourd'hui ? La vitesse moyenne du périphérique, qui était en 2011 de 40 km/h, aujourd'hui est passée à 35.
Ça dépend des horaires aussi.
Ça dépend,
bien sûr. De nuit,
c'est un peu plus. 35 km pour 35 km/h. L'abaissement donc de la vitesse de 90 à 70, qui date, je ne sais plus quand, mais enfin, ça a été la première grande ville à expérimenter, enfin, à réaliser cet abaissement. Et on lui a emboîté le pas. On reparlera de Rennes, qui a essayé et qui a fait machine arrière. On expliquera pourquoi. Donc, effectivement, aujourd'hui, les préoccupations, c'est de réduire la pollution. Les constats sont alarmants en matière de santé publique. Je lisais donc dans l'article que le nombre d'enfants qui avaient consulté entre 2005 et 2015 était d'1 million. Pour des problèmes d'asthme. Donc, il faut trouver des solutions. Une des premières, ça a été les vignettes critères. Donc, on voit avec la circulation différenciée. Au passage, quand je suis allé à Paris là, pendant les périodes de canicule, critères 1 et 2, exclusivement autorisés à circuler. Mais je peux te dire que c'était comme si on n'avait rien fait, puisque le périph était saturé de chaturé. Donc, en fait, tous les véhicules professionnels peuvent rouler. Le camion, le machin, ça roule. Effectivement, les véhicules particuliers, critères 1 et 2. Donc, limitation du bruit. On y reviendra tout à l'heure avec les radars Méduse. Et donc, aujourd'hui, les mesures d'ailleurs qui sont faites sur le périphérique sont au-delà des seuils de tolérance du Code de l'environnement, qui est de 68. C'est-à-dire que, bon, alors je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel endroit, mais enfin, le ronflement régulier du périphérique, c'est 80 dB. Donc, il semblerait que même l'abaissement des vitesses ait vraiment pas eu une action forte sur l'abaissement des nuisances sonores. Donc, on en est là. Alors, ce qui nous intéresse, nous motards, c'est la prise en compte des motos dans le dossier. Eh bien là, malheureusement, Moto Magazine nous rapporte que c'est le grand absent, le deux-roues motorisé, c'est le grand absent de ce rapport. Les seules fois où les deux-roues motorisés sont évoqués, je vous lis, « mauvais parce qu'il pollue 4 à 5 fois plus à la même génération de construction qu'une voiture » ou « générateur d'accidentologie en interfil ». Voilà, c'est les commentaires qui sont faits sur les deux-roues. Donc, il va falloir remonter ses manches. La FFMC l'a déjà fait depuis un bout de temps. La FEMA également intervient à son niveau. Et il n'y a absolument pas, par exemple, de prise en compte d'une étude belge qui a été faite par Transport & Mobility, qui expliquait que le passage de 10% des automobilistes aux deux roues motorisées permettrait de réduire les embouteillages de 40% et les émissions de 6%. Donc ça n'y figure même pas. Donc on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre et que de ce côté-là, si on ne veut pas se faire manger tout cru, parce qu'il est clair que l'objectif, c'est de bouter les véhicules thermiques hors du périphérique. Donc, véhicule thermique, on ne va pas distinguer.
Alors, on se demande comment on va faire, parce que tout converge sur le nord, l'est, l'ouest, le sud. Toutes les circulations convergent sur ce périph'. On est obligé de passer par Paris. Ça a été voulu dans les années 50.
Voilà. Alors, justement, parlons des premières mesures, parce qu'il y a 40 propositions qui sont faites. La première mesure, c'est d'abaisser la vitesse de 70 à 50. Bon, observation d'un économiste, réduire la vitesse à 50 sur deux voies sera parfaitement envisageable dès lors qu'il y aura des solutions alternatives. Outils de transport collectif, absolument insuffisants aujourd'hui. Manière de procéder actuelle, c'est exactement ce qu'il faut faire pour dégoûter les Français de l'écologie. Bon. Première mesure, l'abaissement. Deuxième mesure, c'est bouter donc les véhicules thermiques et donc de rendre des voies, c'est déjà en pratique pour le transport collectif, avoir des voies privé. Donc, vidéosurveillance. Croyez bien que ces dispositions vont aller vite. Aujourd'hui, Paris s'est positionné pour racheter les portiques. Vous savez, les fameux portiques d'écotaxe. Donc, il y a 4 portiques à l'entrée de Paris sur le périphérique. Et donc, Paris se positionne pour les récupérer de façon à pouvoir...
À installer des caméras pour mieux
contrôler
filmer,
les flux, envoyer les amendes directement aux contrevenants. Et voilà. Bon. Voilà. Alors, il y a une troisième, je vous en fais grâce, il y en a 4 sur les 40 que je vous lis. Hein, donc, détruire le périphérique pour y installer sur les portions en contrebas une voie d'eau.
Oui, alors il y a quelques photos futuristes dans ce motomagazine de septembre. Alors, non, effectivement, on peut aussi aller voir
voie
les gens. Les
pour voies rafraîchir la capitale.
Oui, c'est ça, oui.
Bon, utopie, faux, Séoul l'a fait.
Oui, voilà. Et ça ne refroidit rien du tout.
Et quatrième proposition, organiser des moments festifs où toute circulation serait interdite sur un tronçon, comme par exemple la prochaine Nuit Blanche cet automne, ou organiser les foulées du périphérique. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller à Paris, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'avenue de la République à Marcq-en-Barœul. Donc rendre approprié pour les riverains et les gens qui le pratiquent.
Ah oui, mais je répète un peu ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Alors, toutes ces circulations, les gens qui du nord qui veulent aller au sud ou dans l'ouest, comment font-ils pour pouvoir circuler ?
Alors, en plus,
sans passer par ce fameux périphérique parisien.
Oui, et ben, donc visiblement, c'est l'intermodalité, hein, c'est-à-dire des parkings de covoiturage, des aires de covoiturage, pardon, des parkings relais qui permettent justement de changer de mode de transport et de prendre des transports collectifs quand ils roulent.
Je te propose de passer un morceau de musique et puis après, si tu veux, on peut revenir un peu sur le cadre Rennes hein, qui a abandonné les...
Ouais, on va respirer un grand coup.
On va respirer un grand coup et puis on passe un...
En espérant que le périph' ne soit pas pollué.
Et on se retrouve juste après. Voilà, retour avec Christophe Tillemont. On revient sur ce périphérique du futur, le cercle vertueux ou cercle vicieux à voir, Christophe.
Alors, oui, donc je vous ai énuméré 4 propositions parmi les 40. L'atelier du périphérique, structure de gouvernance chargée de la préparation de la transformation, de 277 pages de rapport, hein, quand même, va être chargé de l'application donc, du futur. Du périphérique. Donc, Moto Magazine conclut en disant, évidemment, la moto, et ses acteurs devront négocier avec la plus grande finesse, au risque de se trouver en sortie de route sur ce sujet-là. Encore quelque chose de bien clivant. Et je pense que on aura certainement une mobilisation, un appel à la mobilisation des motards dans le futur. Alors, simplement pour dire que les municipalités ne suivent pas l'exemple parisien. L'exemple, c'est Rennes.
Alors, Rennes,
en a parlé tout à l'heure, qui a essayé donc en 2015 et 2016 de passer de 110 à 90 et de 90 à 70 des tronçons de sa rocade et qui a fait machine arrière, donc qui a choisi de rétablir 90 km/h la limitation de la vitesse, hein, qui a estimé que le trafic était moins fluide avec plus de zones de saturation et de congestion et plus d'accidents et un gain sonore imperceptible. Donc voilà un exemple de municipalité qui a testé et qui est revenu en arrière. Alors, le deuxième sujet dont on parlait tout à l'heure, hein, dans le lancement du sommaire, c'est ce fameux radar Méduse.
Ça fait peur, hein, déjà, radar Méduse. Qu'est-ce qui t'arrive si jamais tu dépasses le nombre de décibels?
Voilà, alors, technologie nouvelle pour une problématique posée. Au départ, alors c'est une route, la route, ça parlera à certains
moteurs. La route des 17 tournants.
Voilà, donc c'est la vallée de Chevreuse.
En Yvelines.
Donc c'est dans les Yvelines, tout à fait. Et donc vous avez deux communes, Dampierre en Yvelines et Saint-Forger, là, dont les riverains se plaignent tous les dimanches matins d'être réveillés subir les nuisances sonores des motards qui envoient sur cette route, la D91. Et donc, le premier radar Méduse... Alors, qu'est-ce que le radar Méduse? Le radar Méduse, en fait, c'est 4 micros directionnels.
On voit la photo le motomag, là.
Donc, ça a effectivement l'allure... c'est une grosse boule noire avec 4 pieds, on va dire, qui sont
les... Qui sortent de cette boule.
Qui sont les micros.
Qui sont fixés sur cette boule.
Et sur le micro principal, alors on ne voit pas très bien, mais j'ai eu l'occasion de le voir à la télévision, vous avez actuellement un appareil photo, enfin des appareils photo, des objectifs qui prennent les séquences de passage des véhicules. Et donc, l'enregistrement, je dirais, dynamique du bruit par un algorithme est associé aux photos. Et donc, on sort une photo, du véhicule avec des petits nuages dessinés qui représentent par la taille qu'ils ont, le niveau.
Alors, c'est pas des nuages de fumée, là, c'est des nuages de bruit.
Voilà, c'est un peu comme dans les bandes dessinées, vous savez, ça fait des petits panaches, mais là, c'est des panaches rouges qui correspondent en fait à l'émission sonore du véhicule. Donc pour l'instant, c'est une association, c'est Bruit Parif qui a lancé ça, hein, développé par Bruit Parif. Et donc aujourd'hui, sur la région parisienne, vous avez 4 radars Méduse qui ont été installés, donc celui évidemment dont je vous parle sur la D91, un à Paris et un autre à Villeneuve-le-Roi, qui sont plus aujourd'hui à titre expérimental. Mais la personne qui a présenté le radar Méduse donc en télévision expliquait bien que les appareils photos seraient remplacés par des caméras et qu'on peut imaginer, à l'ère de la vidéo-verbalisation, d'automatiser tout ça. Bon. C'est pas fait, mais en clair, il y a évidemment un appel à la responsabilisation.
Donc là, si tu dépasses pas sur la vitesse et sur le bruit, si tu dépasses le nombre de décibels, tu risques d'être flashé ou filmé.
Tout à fait. Hein. Donc, quand j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps qu'on pouvait choisir la sonorité de son pot d'échappement au tableau de bord, donc, effectivement, si vous roulez dans des secteurs à riverains, il faudra opter pour la méthode douce. Hein. Voilà. Donc ça c'est le fameux radar Méduse dont on est appelé, je pense, à retrouver l'équipement au bord des routes. Alors, puisqu'on parle des radars, je voudrais aussi revenir sur quelques données. Il y a eu un article il y a quelques jours dans La Voix du Nord sur l'accidentologie dans la région. Donc malheureusement, aujourd'hui, les chiffres sont un peu moins bons que l'année dernière. Il y a eu, à août 2019, 8 morts de plus par rapport à 2018. Et il y a un petit encadré, 36 radars dans le Nord, 22 dans le Pas-de-Calais. La plupart avaient été endommagés, vandalisés, détruits, enfin ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, la Voix du Nord donc, fait le constat que dans le Nord, 16 sont toujours hors service sur les 36. 16 sont en état de service et dans le Pas-de-Calais, 7 sont hors service sur les 22 et donc 8 sont en actif.
On pourra en parler au dimanche prochain parce que dimanche prochain, ce sera une vraie reprise d'émission. Là, on est encore un peu en vacances. Hein. Mais là, on aura notre ami de la Fédération française des motards en colère, Jean-Yves Ballois qui sera présent, Daniel Torel. Également, toi aussi. Et on pourra peut-être dire que c'est la faillite des 80 km/h, en fait, aussi.
Alors, c'est
et pas forcément les quelques radars détruits. Par.
Tout à fait. Et puis aussi, alors je l'avais lu dans un autre article, la mutation vers les radars mobiles. Donc les radars ont marqué de plus en plus, puisqu'en fait, il s'avère que même avec les radars fixes, aujourd'hui, les gens identifient les zones, ralentissent et accélèrent derrière.
Très bien, je te propose de passer un morceau de musique et de se retrouver juste après.
Made of fables and creed, oh, I cried at your
Voilà, toujours avec Christophe Tillemant, l'Odyssée de l'espèce en Grèce.
Oui, alors comparatif trail. Tout à l'heure, j'évoquais donc la Ténéré. Alors la partie, elle est. Je reviendrai sur le comparatif avec les motos qui lui sont exposées. Mais déjà pour dire que j'ai découvert dans l'article qu'il y avait un motomagazine en Grèce. Automagazine Grèce. Et donc, c'est une collaboration franco-grecque avec Monsieur Sevastopoulos, Monsieur Bilis, Kyriakopoulos ou...
Tu parles bien grec, finalement, hein, Christophe.
Yanis,
bravo.
Voilà, je fais aussi bien qu'Yanis. Hein, et Monsieur Feloukas. Bon, alors, plus sérieusement, nos amis, là, journalistes, donc François Barrois pour Motomagazine, sont partis 6 jours en trip. Ils sont partis d'Athènes, quand même, hein, mais ils sont montés plein nord, donc en direction de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Et bon, une semaine sur les chemins, les pierriers des montagnes albanes et de Macédonie du Nord. Macédoine, pardon, du Nord. Et donc, les forces en présence, hein, donc la Ténéré 700, la KTM 790 Adventure, la BMF 850 GS Adventure, et évidemment, l'incontournable Honda 1000 Africa Twin. Donc, 4 motos avec des tempéraments différents et une analyse complète sur ce terrain-là. Alors, première chose qui frappe, c'est que la BM, quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était une 1250 GS. Ben non, elle en a pratiquement les attributs et le poids. Et c'est, je dirais, sa force et sa faiblesse. Hein. Donc, une grosse machine, un réservoir de 23 litres, placé bien haut, alors que justement, la KTM, par exemple, a son réservoir sur les flancs et donc accuse un équilibre des masses nettement meilleur. Alors, celle qui tire son épingle du jeu, bien sûr, c'est la Ténéré. Hein, tous les enduristes retrouveront là un petit peu...
Cette nouvelle moto hein, qui vient de sortir voilà, quelques mois.
Donc, une cylindrée déjà de 100 à 200 cm3 inférieure à ses concurrentes, mais surtout une légèreté, des assistances techniques limitées, qui en font finalement une machine simple et qui, dans ce terrain-là, s'est avérée particulièrement joueuse et appréciée de tous les...
Ce qui me surprend, j'ai la photo devant les yeux, hein, c'est l'épaisseur de la selle. On en parlait dans le sommaire. Alors, c'est à peine 2 cm. Hein, c'est un trail où il faut rester sur les jambes, en fait, debout.
Voilà. Alors, effectivement, on peut
s'asseoir, mais...
Ce sont quand même des machines... de trail, bon, qui est équipé en pneus crampons pour la circonstance. Hein. Mais clairement, l'Honda et la BM jouent le confort, là où la KTM est... parce que la KTM, c'est pareil, hein, et la Ténéré...
Je ne te parle pas de la passagère. Hein.
Oui, alors, pour l'anecdote, le pilote de la Ténéré, il est parti avec un sac, comment dire, stocké, enfin, un sac... Balochon, enfin, je cherche le terme, sangler sur la selle, parce qu'il n'y avait rien d'autre possible, il n'y avait pas de porte-paquet, donc ouais. Le duo en Ténéré vous abandonnait.
Je ne sais pas, comment ils ont fait le soir, ils ont fait du camping ou l'hôtel parce qu'on ne voit pas effectivement de bagages sur les...
Ils ne nous disent pas tout, apparemment il y a eu quand même un bivouac, il y a une photo où on voit 11 ou même 12 machines alignées, donc ça devait être la sortie sympa.
C'était le motoclub grec qui était au rendez-vous avec nos journalistes français.
Visiblement. Donc, dans toutes les configurations, mais là, on retrouve effectivement les caractéristiques des comparatifs habituels de Moto Magazine, hein, c'est-à-dire une analyse sur la partie mécanique, hein, où là, clairement, la Honda se détache, ainsi que la BMW, par leur coffre, par leur homogénéité, et puis le côté sympa de la mécanique. La partie cycle, et donc là, en clair, c'est la KTM qui est largement devant ses concurrentes. La vie à bord, tu viens d'en parler, c'est pas le fort de la Ténéré. Par contre, vous retrouvez chez la KTM et la BMW toutes les attributs du voyage en duo. La sécurité, bien sûr, et le budget. Alors, on est sur des machines qui sont sans option, déjà à 13 000 euros pour l'ABM. Si vous ajoutez le compteur TFT, vous rajoutez 600 euros. Bon, ça vous donne... Mais ça, on connaît la politique BMW. Bon, après, vous pouvez acheter, évidemment, tout ce qui est en port, donc la bagagerie. Là, c'est encore quelques 1000 euros de plus. Donc, pour avoir une machine pour tailler la route dans toutes les circonstances, on est sur des budgets largement au-dessus de 10 000 euros. Et jusqu'à celle qui était présentée, là, la BM, elle est à 18 000 euros. Donc, on est quand même sur les premiers prix, je pense, des 1200 GS, 1250 GS. Sans les options. Donc voilà, vous découvrirez ça. Je pense que c'est les motos aujourd'hui pour voyager, pour sortir des sentiers battus. Et c'est un comparatif.
Page 58, on parlait de bagages. Si on ne savait pas comment avait. Pour le couchage, hein, si c'était l'hôtel ou la tente. Effectivement, page 58, on les voit en bivouac.
Oui.
Et on apprend aussi que ils ont mangé des tartines à l'huile d'olive et aux fines herbes.
Ah bah oui, couleur locale.
Les spécialités de la Grèce.
Bon, moi je veux bien prendre mes vacances et puis bon, ceci dit, je suis pas essayeur moto, donc voilà. On peut profiter. Mais pour faire une anecdote, tout à l'heure tu me parlais du vélo, j'ai eu l'occasion d'aller sur le Paris-Brest Paris Randonneur et donc j'ai des potes qui se sont fait prêter des vélos par des constructeurs pour faire la compétition. Donc c'est pas une compétition, là, c'est une randonnée, mais il y a quand même des gens qui se tirent la bourre, hein, en vélo comme en moto d'ailleurs. Voilà, donc vous retrouverez ça, ce comparatif trail, dans Moto Magazine de septembre.
Il faut se dépêcher, hein, parce que pour le retrouver,
oui, celui-là. Oui, oh, en général, il reste en kiosque encore un petit peu. Hein. Donc, c'est d'ailleurs la page de couverture, Ténéré 700, face à ses rivales, 2500 km. Il y a un peu d'esprit du Dakar là-dedans. Hein. Dakar a ses sources, donc c'est presque un numéro de tourisme. Et puis, puisque je parle de tourisme, il y a aussi un numéro sur le Jura, une découverte de la région. Très sympa.
Très bien. De toute façon, il y a d'autres articles, hein, dans ce Moto Magazine, hein, mais on n'a pas le temps d'en parler. C'est à vous d'aller découvrir.
C'est pas le sommaire du Moto Magazine.
Voilà. Et on se retrouve dimanche prochain.
Absolument.
Bah alors, avec toute l'équipe là, au complète. Hein, voilà. Daniel Torel pour le Custom Village, Jean-Yves Ballois, hein, pour la Fédération Française des Motards en Colère. Et je pense qu'on va pouvoir débattre sur la hausse des tués sur la route. À mon avis, les avis vont diverger.
Oui, bon, j'ai l'article là sous les yeux de la Voix du Nord, effectivement. Et malheureusement, c'est la tranche 18-45 ans qui est la plus touchée. Hein, 55% des décès, 32 personnes là, depuis le début de l'année, hein, sur les 59 accidents mortels. Donc, prudence sur la route.
Très bien, je te remercie Christophe et à dimanche prochain.
À dimanche.
toujours sur Radio Campus Lille, c'est le magazine de la moto, tous les dimanches à partir de 11h. Direction maintenant la deuxième édition des Cutanés, qui s'est déroulée le 15 septembre dernier au fort de Seclin.
Voilà, je suis avec Jean-Paul de Creton. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es le président de la confrérie des vieux clous.
Oui, je suis le président depuis quelques années maintenant de la confrérie des vieux clous.
Ouais. Voilà. Et, deux mots alors sur la confrérie des vieux clous.
La confrérie, donc, c'est une association loi 1901, donc d'amateurs de motos anciennes qui utilisent les motos. On n'est pas là pour les conserver et les mettre à l'abri dans des musées ou bien dans le fond des garages et les admirer, mais c'est pour les utiliser, quoi.
Voilà, alors aujourd'hui on se trouve dans un lieu, dans une prairie en fait. On fait cette interview dans une prairie, faut dire c'est la vérité.
C'est bucolique.
C'est bucolique, ouais. il y a du soleil, le fond de l'air est très doux, on est dans le nord, on est à Lille.
Le ciel est bleu.
Le ciel est bleu, quelques petits bi-réacteurs parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport de Lille, voilà, hein, pour les gens qui nous écoutent par internet. Voilà. Et aujourd'hui c'est la deuxième édition des Cutanés.
Oui.
Les Cutanés, explique-nous un petit peu ce nom, comment vous avez fait pour trouver... Et aussi, on parlera un petit peu de ce que c'est que cette édition cutanée. Hein.
D'accord. Bah alors, pourquoi le nom des cutanés ? Donc, ça vient un petit peu de l'utilisation des motos, où on s'use la peau des fesses sur nos selles, en cuir généralement, parce que c'est les anciens modèles. Et les cutanés, on les tanne encore plus facilement ici en venant au fort, parce que l'allée d'accès donc, à ce fort de Seclin, donc, qui doit dater de 1870, de mémoire, l'allée d'accès est en pavé. Et ça se coupe bien et ça tanne bien la peau des fesses.
Voilà. J'ai vu que maintenant, de ce côté, ils ont mis un peu de bitume quand même.
Un peu de bitume. Mais
vraiment,
ça...
c'est pas...
Mais il n'y a pas longtemps.
Ils ont pitié de vous. Quoi. Voilà, alors, de quoi s'agit-il? Alors, les cutanés. On rappelle que c'est la deuxième édition. Hein.
Alors, c'est la deuxième édition. On a fait le constat en fait, qu'au nord de Paris, pour les machines donc à 2, 3 ou 4 roues, enfin, machines très anciennes, il y avait très peu de manifestations sur une journée, avec peu de kilomètres. Donc c'était un peu compliqué. Et on a créé ça donc, de manière à essayer de faire sortir les ancêtres. Hein, que ça soit moto...
Alors, il y a les voitures, hein. Deux, trois tracteurs, hein, qu'on aperçoit à côté de nous, là.
C'est véhicule motorisé, donc d'avant-guerre. Hein, le thème, c'était ça. Alors, bon, la première année, on a ouvert un peu en disant, si c'est après-guerre, c'est pas grave, on va les accueillir quand même, ces gens-là. Ça fera toujours amener un peu plus de monde. Cette année, encore pareil. Donc, on a des véhicules agricoles, militaires, des camions, des voitures. Donc c'est ouvert à tout, des cyclocars, des sidecars et des motocyclettes.
Donc ça se passe au fort de Seclin, alors un site historique.
Un site historique, donc privé. Donc c'est la famille Boniface qui a racheté ce fort il y a une trentaine d'années maintenant. Et depuis 30 ans, il restaure le monument. Donc c'est complètement privé. Et la famille Boniface, donc... a ouvert un musée donc de l'artillerie d'avant la Première Guerre mondiale.
Voilà. Ouais. Donc qu'on peut visiter aujourd'hui. Hein,
ah oui, le musée est ouvert. C'est un site exceptionnel parce que y a ce musée de l'artillerie là d'avant 14. Le fort par lui-même aussi, c'est quand même un monument assez discret parce qu'on ne le voit pas depuis les routes qui
tournent. C'est fait un peu esprit, hein, fort, normalement on essaye de pas trop le...
C'est, là, en temps de paix comme ça, ça serait bien qu'il soit un peu plus visible et qu'on puisse un peu plus l'identifier.
Alors je sais pas si tu as remarqué, mais ici on situe un peu sur une butte, hein, on arrive à apercevoir, on est un peu sur une hauteur, il y a un dénivelé.
Oui, il y a un petit dénivelé, ouais.
Et on aperçoit un peu la métropole lilloise au loin, là, avec... Et donc le déroulement de la journée, là on rentre un petit peu dans l'action.
Oui, dans l'action. Le déroulement de la journée, c'est se retrouver donc, sur les pâtures, là devant le fort. Donc papoter, donc discuter avec les amis, les gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, faire des rencontres, donc parler un petit peu des mécaniques, de l'histoire l'histoire de la restauration de ces machines, hein, aussi bien deux roues, trois ou quatre ou plus. Et à l'occasion aussi, démarrer les moteurs, se mettre en route, partir faire une petite balade de quelques kilomètres. Là, Je pense que la première année, on avait fait ça plutôt sous forme libre, ouverte, où les gens partaient, on avait établi des roadbooks et les gens partaient quand ils voulaient. Ça n'a pas très bien fonctionné, donc cette année, on va plutôt faire un départ donc en groupe, tout le monde en même temps. Peut-être on en fera peut-être deux au cours de la journée. Mais en fait, le but, c'est que ça soit dynamique et que les visiteurs puissent voir tourner des machines, tourner des moteurs, les voir rouler un peu, donc pour le départ, pour l'arrivée, etc.
D'accord. Bon, l'émission et l'interview sera rediffusée, hein, ne sais pas en direct, forcément. Mais, par contre, on peut venir visiter le musée, sais pas, durant la semaine.
Non, je pense que c'est le week-end. C'est uniquement le week-end et que le dimanche, je pense. Hein.
Et c'est apparemment 6 euros
c'est 6 euros l'entrée et la visite et du fort et du musée.
Avec Jean-Paul, on te remercie pour cette interview. On se retrouve l'année prochaine, peut-être, pour la troisième édition.
Oui, on espère bien la troisième.
Parce que ça fait la deuxième et ça fait deux fois qu'il y a du soleil.
Et ça fait deux fois qu'il y a du soleil et qu'il pleut pas.
Parce que
c'est fantastique.
Sous la pluie, ce serait pas la même chose, quand même.
C'est différent.
Ouais, c'est différent.
Un peu moins plaisant et ça attire moins les spectateurs, c'est sûr.
C'est toujours à l'occasion de.
Alors, l'année dernière, donc, c'était à l'occasion des Journées du patrimoine. Cette année, on a gardé le même week-end, mais par contre, les Journées du patrimoine ont été fixées sur le week-end suivant. Donc, on n'est pas en même temps que les Journées du patrimoine. Et on a décidé, au niveau du bureau, de toujours garder le même week-end. Journée du patrimoine ou pas, mais ça sera toujours le même week-end, c'est-à-dire le deuxième week-end du mois de septembre.
Donc aussi, il faut rappeler que les bénéfices de cette journée sont reversés intégralement.
Donc l'intégralité donc, des bénéfices, s'il y en a, parce que l'entrée, c'est vraiment pas cher, et de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'occasion des cutanées du fort de Seclin, donc l'ensemble des bénéfices est reversé donc, à l'association du musée du fort de Seclin.
Eh bien, Jean-Paul, on te remercie. Et puis, bonne journée, parce que
bonne journée.
La
journée ne fait que commencer.
Effectivement.
Tout le monde sera le bienvenu, même si c'est l'année prochaine. Il n'y a pas de souci.
Merci à toi.
Merci. We'll be right back.
Voilà, je suis en compagnie de Gilles Détailleur. Gilles, bonjour.
Bonjour la miche.
Alors, je rappelle aux auditeurs que tu es, on va dire, le fondateur, on va dire, hein, quand même, de cette confrérie des vieux clous.
Oui, oh, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un grand amateur de vieilles mécaniques.
Le premier président de cette confrérie.
Ah oui, tout à fait. Oui, alors là, je suis le premier président, le fondateur, effectivement.
Je suppose que tu es encore président honoraire ou...
Non. C'est non. Fondateur, mais président, non, ouais. En principe.
Bon, là, on se trouve ici au Fort de Seclin pour cette deuxième édition des Cutanés. On a de la chance aujourd'hui. Vous avez de la chance parce qu'il fait très beau.
Ah mais on fait en sorte, hein. On a des relations là-haut et ça se discute, mais bon, on y est arrivé.
Vous avez une ligne directe.
Oh, pas que.
Une ligne directe. Voilà, donc je vois que c'est toi qui s'occupe un peu des inscriptions. Comment ça fonctionne ?
Si, je me suis occupé des inscriptions, mais c'est surtout une question d'organisation, là. C'est tous les membres du bureau, ils ont mis la main à la pâte, mais c'est pas évident à organiser parce que c'est la deuxième fois d'abord qu'on le fait. Et on est très content parce qu'on réussit à avoir sur site un patrimoine industriel avec tous les véhicules à moteur. Hein, on n'en a pas suffisamment à notre avis, mais par la suite, on aimerait bien en avoir un peu plus. On a du patrimoine architectural avec le fort qui date de 1874. On a un patrimoine historique avec la guerre de 14 quand même. Et en plus, bon, c'est le centenaire, mais on a l'impression qu'après, on ne va plus trop en parler. Or, ici, il y a un musée hippomobile qui est un des plus beaux de France, mais les gens ne le savent pas. Et on a surtout une excellente ambiance. C'est très important. Donc, tout ce qui est l'entrée et du fort, c'est une participation pour aider les personnes du fort à le rénover.
Oui, on a parlé avec Jean-Paul. Hein, donc,
oui. Ah bon, d'accord.
L'argent qui a été récolté aujourd'hui sera reversé intégralement.
Tout à fait.
L'association, c'est une association, le fort ?
C'est familial. C'est la famille Boniface qui a ça en charge. Ils habitent dans le fort, d'ailleurs. Ils vivent dans le fort et ils rénovent. Ils vivent fort dans le fort.
Voilà. C'est carrément...
Elle est bonne.
En fait, ils vivent dans les casemates. En fait.
On peut dire ça, oui.
Voilà.
Ouais.
Et donc, on peut effectivement visiter. Alors, aujourd'hui, on peut visiter. Hein, et puis, apparemment, aussi, tous les week-ends, on peut visiter ce fort.
Ah oui,
fort.
Tout à fait. Voilà. Et là, nous, on apporte notre pierre à l'édifice en se faisant plaisir aussi, parce qu'on est sur un site où on ne va pas nous dire que nous sommes des pollueurs, que l'on fait du bruit, etc., etc. Et puis, on intéresse tous les véhicules anciens et les véhicules d'époque.
D'accord. Comment ça marche ? Il fallait s'inscrire auparavant pour présenter sa voiture ou sa moto ?
Oui, le voiture.
Parce qu'il y a des tracteurs aussi.
Oui, il y a le club de tracteurs des WEP là, qui est là. Et on voudrait bien avoir des camions, mais ils ne pouvaient pas venir, le gars. On ne déplace pas un camion comme on déplace effectivement une motocyclette. Bon, c'est sûr. Non, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. On essaye d'avoir un maximum de personnes. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça perdure dans le temps et que tous les 15 septembre, on sache que il y a les cutanés du fort de Seclin qui seront là et les gens sont les bienvenus.
Alors on m'a dit que c'était toi qui avais trouvé le nom des cutanés.
Non, mais j'aimais bien. J'avoue que j'ai un petit peu. Bah oui, on dit toujours à nos petits enfants et à nos enfants, il faut pas dire de gros mots. Hein. Mais je m'excuse. Q, c'est bien français, monsieur.
Ah oui.
Hein. Et puis on se fait plaisir. Et cutané, pourquoi ? Parce que quand on a fait quelques kilomètres sur une vieille moto, cyclette, on a effectivement un fondement qui résiste à tout.
Et oui, voilà, le fondement.
Le fondement, mon cher Lamiche.
D'accord. Non, on m'a dit aussi que c'était parce que un peu à cause de cette entrée là qui est en pavé. Hein. Après les pavés du Nord, on les connaît. Hein.
Ouais,
c'était justement le nom était bien trouvé parce que quand on arrive dans le fort, on s'est payé 800 mètres de pavé et là on a le cul bien tanné.
Ouais, mais t'étais en voiture. Attends, arrête.
Voilà Gilles. Donc, écoute, vraiment une belle journée qui commence. Hein. Il est 11h. Là, et on a toujours un beau soleil.
Alors,
et puis un fond de l'air qui est vraiment très, très doux.
J'espère que les gens seront indulgents avec tout ce qui va se passer parce qu'on a essayé de faire une bourse modestement. C'est-à-dire que les gens qui étaient inscrits, qu'ils soient en véhicule, peu importe le véhicule, s'ils avaient des pièces et s'ils voulaient s'en défaire, parce que pas l'utilité, ils pouvaient venir et ça, c'était inclus dans le prix de l'inscription. Peu importe le mètre, hein, s'il y avait 10 mètres linéaires, c'était inclus dans l'inscription. Bon, ça n'a pas répondu vraiment comme on veut. On a par contre deux beaux stands où on n'a pas que de la ferraille. Bien au contraire, on a des pièces bien spécifiques. Et ça, il faut le souligner. Et on aimerait bien que les gens soient indulgents avec nous, qu'ils comprennent que c'est la deuxième fois et que ce n'est pas évident de pouvoir regrouper tout ça. D'autant plus qu'on a deux mois de vacances juste avant la manifestation. Voilà. Et les gens oublient quelquefois.
Et puis encore aussi dans l'or de la France ici, et surtout dans la région lilloise, hein, il y a beaucoup de choses qui se déroulent,
oui,
qui se passent.
Oui, hein. Oui, oui. Et puis en Belgique aussi. Il y a Vise.
Oui, il y a Vise aussi. Et donc,
on ne veut pas faire de l'ombre à Vise.
Oui, mais bien sûr. Mais bon, tout ça, ça divise aussi la participation des visiteurs. Aussi.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous, on vise sur la qualité, tu vois.
Voilà.
Eh bien, quand même, on a des machines, là, notamment en motocyclette et en automobile. La Bentley de 1935, elle est quand même remarquable. C'est un truc remarquable. Et puis, en question motocyclette, parce que nous, c'est un petit peu notre magasin, on a quand même plusieurs machines tournantes qui sont d'avant 20, hein, et même d'avant 10. Voilà.
Très bien, Gilles, on te remercie. On va te laisser retourner à l'entrée, hein, parce que c'est toi qui pointe les...
Je tire ou je pointe.
Et en plus, j'entends un bireacteur qui arrive.
Oui.
On va pouvoir s'entendre pendant au moins quelques minutes. Oui. Donc, merci d'avoir répondu aux questions.
Mais de rien.
De Kikinkout et tout pâle, Gilles.
Merci. Merci à toi, la Miche, et puis à toute l'équipe, hein, qui suit habituellement.
Merci.
À un de ces jours. Au revoir.
On the city, you know I
Voilà, je suis avec Quentin Morels, l'explorateur à moto. Quentin, bonjour.
Bonjour.
Explique-nous un petit peu ce que tu explores à moto.
Eh bien, en fait, j'explore les villages. Je raconte leur histoire sur les monuments, tout ce qui est en rapport au patrimoine. Donc, je vais régulièrement sur les reconstitutions historiques, que ce soit souvent militaires. J'ai déjà fait des reconstitutions sur des... j'ai déjà fait des reportages sur des reconstitutions ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale, comme il y a 2 semaines, il était une fois le Nord-Pas-de-Calais libéré à Hélicourt. Pareil, la semaine dernière, j'étais venu justement au fort de Seclin pour la reconstitution sur le camp napoléonien. Et là, aujourd'hui, je viens justement parce qu'il y avait des vieux véhicules donc, qui ont un intérêt historique, patrimoine, etc. Et donc, j'interroge les personnes sur leurs véhicules, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et donc ensuite, je fais mon montage et j'essaye de partager justement tout ceci sur Internet. Et...
Donc tu as un Facebook, c'est un montage photo, vidéo ?
Alors, j'ai une page Facebook, une page Instagram dans laquelle je partage mes photographies et j'ai surtout une chaîne YouTube dans laquelle je fais justement mes reportages puisque ce sont des reportages vidéo.
Très bien. D'où vient cette passion ?
Alors ma passion en fait est, on va dire, plutôt éloignée de la mécanique. C'est parce que surtout j'adore le cinéma et j'adore surtout les films historiques. C'est toujours cette idée de voir quelque chose d'ancien se mettre en œuvre. Ça m'a toujours fasciné. Donc du coup, d'où ma moto, la moto bécane des années 50, je la filme, je la mets en œuvre et j'aime bien justement voir ailleurs ce qui se passe. Et...
D'accord, donc tu as une moto bécane, mais aussi tu m'as dit que tu avais une Suzuki.
Une Suzuki Marauder des années 90.
Voilà.
En fait, deux motos s'imposaient un peu pour mon projet, au sens où si je peux pas garder un œil sur la moto bécane, je préfère prendre la Suzuki qui... On va dire, elle est moins chère à mes yeux, entre guillemets. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui te motive ? C'est un projet d'étudiant ou non ? Tu voudrais vraiment que ça prenne de l'ampleur ?
Je voudrais vraiment que ça prenne de l'ampleur. Et non, c'est pas un projet qui... Enfin, ce n'est pas porté par mon université, je veux dire. C'est vraiment quelque chose que moi, je veux mener. J'ai envie de faire du journalisme. Mais c'est du journalisme un peu à ma sauce, puisque je mêle, on va dire... des interviews, mais aussi des petits moments scénarisés. J'essaye de mettre de l'humour pour que ce soit justement accrocheur. Je fais tout seul, en fait. Je filme, je fais le montage. J'essaye d'établir une communication aussi pour faire partager tout ceci.
Donc, est-ce qu'on peut communiquer ? On peut aller sur ton site, après sur Facebook ou autre ?
Oui, il suffit de...
On peut communiquer, donner son avis ?
Oui. Il suffit de taper l'explorateur à moto. Vous pouvez voir les photos, mettre en commentaire ce que vous en pensez, même les vidéos. Et puis même moi, ça me permet justement d'avoir un recul sur ma vidéo et justement sur les prochaines, de m'améliorer.
Qu'est-ce que tu voudrais faire par la suite ?
Je voudrais devenir youtubeur. Je voudrais continuer les reportages. Ouais. J'aimerais justement pouvoir en vivre. Pouvoir en vivre, justement, ça me permettrait de faire plus de reportages parce que c'est quand même compliqué, c'est du temps à prendre. Là, j'essaye de fonctionner à un rythme d'une vidéo par semaine, sauf que j'ai du mal à le tenir, justement. Parce que je travaille.
Un format sur la vidéo ?
Un format sur la vidéo, une dizaine de minutes, pour que ça reste accrocheur.
Et ouais. Sinon, après. Accroché aussi au public ?
Au public. Ouais, ouais. Et j'essaye d'avoir une ambiance très rock'n'roll.
Oui, oui. Donc, justement, tu mets de la musique sur les vidéos, tu mets de la musique ?
Oui, je mets de la musique, justement, libre de droit, toujours avec une ambiance rock'n'roll, ou sinon, si c'est pas rock'n'roll, j'essaye de trouver quelque chose qui va en accord à l'image. Donc du coup, j'ai mis de la musique classique pour Napoléon.
Oui, donc aujourd'hui, c'est les cutanées, hein, donc on est le 15 septembre, c'est la première fois que tu viens ici ?
Première fois, oui. Enfin, je connaissais le fort de Seclin, mais première fois que je vais à ce rassemblement. Oui, on peut me contacter sur Quentin l'explorateur à moto, donc via la page Facebook,
ouais.
Ou sinon même Instagram, on peut envoyer des messages.
Ah, très bien. Écoute, je te remercie et puis bonne chance aussi.
Merci. Voilà. Merci à vous.
to the flowers. Talk to the flowers. Sing to the trees. Sing to the trees. I want to float on the ocean. I want to blow with the breeze. Shake myself free.
Shake myself free.
Space and time. What I'm looking to find. I want to lose my mind. For what I'm looking to find.
Alors Gilles, dis-moi la marque de cette moto.
Triumph, évidemment.
Alors c'est un monocylindre.
Un magnifique monocylindre de 550 cm3.
Produit en quelle année ?
1916-1917.
Alors c'est un modèle aussi très réputé.
Ah oui, parce que c'est un modèle qui a équipé beaucoup l'armée anglaise et on appelait ça la Trusty, c'est-à-dire l'increvable.
L'increvable, la valeureuse.
Voilà.
Voilà, une histoire, tu l'as trouvée où cette moto ?
Celle-là, je l'ai eue dans les Ouatrinques du côté de Saint-Omer. C'est un copain qui m'a donné ce qu'il y avait, c'est-à-dire une partie cadre et deux demi-roues. Il manquait un moteur, une boîte de vitesse.
Il manquait plein de choses alors ?
Il manquait plein de choses.
Alors comment t'as fait pour retrouver toutes ces pièces ? Parce qu'en 2019 ?
Eh bien, comme j'avais échangé pas mal de choses avec des copains, eh bien, l'esprit bourse d'échange s'est arrivé et ils m'ont ramené toutes les pièces qui me manquaient.
Combien d'années il t'a fallu pour reconstituer cette moto ?
6 ans de boulot.
6 ans de boulot ?
Ah ouais, bah ouais. Et je suis allé par la route tout seul en Angleterre, c'était en 81. Je suis allé au Pioneer Run. Bah, elle pouvait pas tourner avec puisqu'elle était trop jeune, puisqu'elle était d'après 1914. Hein, j'ai roulé 17 heures avec.
Sans problème ?
Sans problème.
Voilà. Et ça consomme combien cette machine ?
Un certain nombre de litres d'essence. Non, mais pas grand
beaucoup.
Chose.
Non, pas grand
non,
chose.
Pas grand chose. Ça va encore.
Ça marche super normal ou...
Non, 98 additivé avec de temps en temps un petit peu d'huile de temps, 100% de synthèse qui fait que ça correspond à un lubrifiant de haut de cylindre, c'est-à-dire ça te grève tes tiges de soupape.
Non, il faut des spécialistes pour rouler avec cette machine.
Non, il faut être un peu branché dessus quoi.
Bon, très bien. Bah, voilà. On entend qu'elle marche bien. Hein.
Eh ouais, mieux que moi.
Ouais, voilà. Très bien, Gilles.
Salut la. We'll be right back.
Compagnie de Pascal Roussel. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tu es le vice-président de la FFVE.
Oui, tout à fait. Donc, la FFVE, c'est la Fédération française des véhicules d'époque. Donc, c'est une association loi 1901 qui regroupe, en tant qu'adhérent, les clubs, les professionnels liés aux véhicules de collection et les musées de véhicules anciens. Essentiellement.
Les fédères, en fait.
Qui fédèrent tout ce petit monde. Donc, on est à environ 1400 adhérents. Hein, ce qui regroupe, ça doit faire à peu près 200 000 collectionneurs pour un petit million de véhicules. Hein, tout ceci pour la France. Donc les véhicules doivent avoir plus de 30 ans. Évidemment un moteur, hein, ça peut être une auto, une moto, un camion, un tracteur, un char.
Même les chars aussi.
Même les chars aussi.
C'est rare qu'on rencontre des chars sur la route, mais bon.
Ça arrive, et en particulier cette année, avec les 75e anniversaire de la Libération,
oui,
on en voit de temps en temps.
Voilà, donc si on possède un véhicule de plus de 30 ans, on peut le faire passer, je ne sais pas comment, il y a un mot technique, on peut le faire passer en véhicule d'époque.
En véhicule de collection, voilà, tout à fait.
Un véhicule de collection.
De collection, voilà. Donc c'est une mention qui apparaît.
Et l'avantage de cela?
Donc c'est une mention qui apparaît sur la carte grise. Alors il y a un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il change de catégorie. Il n'est plus considéré comme un véhicule d'usage, mais vraiment comme un véhicule patrimonial. Hein? Donc, et donc comme un château ou comme un vieux meuble, on va prendre peut-être un peu plus attention. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus l'utiliser tous les jours comme un véhicule du quotidien.
Du quotidien, hein?
Et puis, on a un certain nombre d'avantages autres. Le tout premier, c'est en cas malheureusement d'accident, contrairement à d'autres véhicules, on peut conserver le véhicule, le faire réparer et le remettre sur la route après une expertise. Ce qu'on ne peut pas faire avec un véhicule qui aurait 30 ans en carte grise normale, il serait systématiquement détruit puisqu'on dirait qu'il est... économiquement irréparable.
Je vois un avantage, c'est que c'est un contrôle technique tous les 5 ans.
Alors, il y a aussi un deuxième point, c'est le contrôle technique tous les 5 ans, puisque les véhicules de collection, par principe, ne roulent pas beaucoup. Et les propriétaires font quand même beaucoup plus attention à leur machine qu'un véhicule de tous les jours.
D'accord. Et aussi, je vois aussi un deuxième avantage, c'est qu'avec toutes ces vignettes critères où on ne peut plus rentrer dans les villes, on peut rentrer avec un véhicule d'époque. Alors, avec un véhicule de collection, quand il n'y a pas les pics de pollution.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est un certain nombre de discussions que nous avons. Alors, pour le moment, c'est une discussion qu'on a métropole par métropole, donc ce qui est relativement complexe, hein, puisqu'on imagine qu'il faut aller négocier à Dunkerque, à Lille, à Arras, à Paris, à Grenoble, à Lyon, etc. Bon, on a l'espoir de trouver une solution au niveau national. Pour le moment, c'est encore un petit peu compliqué, mais on travaille dessus. Et dans un certain nombre de métropoles, comme à Paris, on a obtenu une dérogation pour pouvoir, avec une carte grise de collection, circuler, je veux dire, au quotidien, sous réserve de l'option loisir et pas travail, on peut circuler pour aller à son contrôle technique, pour aller chez son garagiste, pour faire un départ d'une balade, comme pour venir ici au Fort de Seclin, si on était parti hier ou avant-hier, ou rentrer demain. On peut le faire, sauf, bien évidemment, les jours de pic de pollution, où là, il faut être civique et raisonnable. Les propriétaires, je dirais, de véhicules classiques ne pouvant pas rouler, on ne va pas, nous, aller...
Alors, comment ça fonctionne? Il faut téléphoner, on envoie un dossier, une photocopie de carte grise ou du véhicule?
Pour passer en carte grise de collection, on va devoir remplir un dossier pour obtenir ce qu'on appelle une attestation de datation. Donc cette attestation de datation, c'est la FFVE qui va le délivrer ou éventuellement le constructeur. Si le constructeur ou l'importateur existe toujours. Première contrainte, il faut que le véhicule soit en état d'origine. Il n'a pas besoin d'être restauré, il peut être dans un très bon état d'origine, mais il faut qu'il soit en état d'origine. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, pour les collectionneurs qui font des modifications, ça ne peut pas passer dans la collection. Au sens de la carte grise, bien sûr. Après,
les... Alors, modification, on parle quoi, modification ? Alors, si on parle, mettons, moto ou voiture, alors,
si on change le moteur et sur un châssis de Triumph de 1911, on va venir mettre un BM R30, R60, ouais. Ça, c'est pas tout à fait l'origine. Alors après, si on remplace sur une Omeron à 350, parce qu'il est cassé, par un autre 350... d'une autre Gnomeron, ça bien évidemment on peut le faire, mais on peut pas venir mettre un moteur plus moderne et beaucoup plus puissant.
Très bien. Oui, donc c'est un prix ça...
Alors cette attestation, c'est un dossier qu'on va télécharger sur notre site. Il faut remplir un certain nombre de documents sur l'identité du véhicule, donc c'est surtout la plaque constructeur, et ensuite l'identité du propriétaire. Donc si on est déjà propriétaire soi-même et qu'on veut la passer en collection, c'est facile. Par contre, si c'est suite à un achat ou une sortie de grange, c'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut bien s'assurer, au moment de l'achat, d'avoir assez de documents pour justifier de la propriété du véhicule.
D'accord, très bien.
Et cette attestation, pour répondre à votre question, cette attestation, elle vaut 60€ pour une auto et 30€ pour un deux roues.
D'accord.
Et donc ensuite, si c'est suite à un achat, on fait sa carte grise et on fait la carte grise et la mention collection d'un seul coup. Donc là, il n'y a pas de coût. Enfin, il y a le coût classique de la carte grise. Et si on a la carte grise à son nom et qu'on veut faire la modification, là, c'est le coût d'un cheval fiscal. Donc c'est généralement autour de 30€ plus le coût postal à 2,54€ ou quelque chose comme ça.
Très bien. Est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ?
Donc il y a le site internet de la fédération qui est ffve.org et où on retrouve la totalité des informations. Pour le dossier de demande d'attestation, c'est sur la page d'accueil, en haut à droite, il y a une carte grise, on clique dessus et on a le dossier.
Très bien. On va te laisser parce que t'entends, on a...
Ah non, pas l'avion.
Les avions, non, ça marche pas.
Ça
les chars, oui, mais
non.
Pour les avions.
Oui, tout à fait.
Bon, ben, Pascal, merci pour toutes ces informations.
Merci de rien. Et puis, n'hésitez pas.
Sur les véhicules d'époque. Hein, et puis, très belle journée aujourd'hui.
Tout
hein.
À fait.
Voilà.
Et puis, il y a des beaux matériels.
Donc,
c'est l'occasion de venir faire un tour.
Merci pour cette interview.
À très bientôt. Merci.